Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Ben oui, parce qu'à côté de Lewis Hamilton, Michel Villeneuve, quand même, ce n'est pas de la petite bière.
Non, non, c'est quand même pas de la petite bière, mais c'est drôle, le hasard fait drôlement les choses. Hein?
Comment ça?
Parce que mon amie Catherine s'éloigne toujours pour des vacances après avoir fait ses prédictions dans le monde du sport. Je me rappellerai de la conquête de la Coupe Stanley par les Caps alors qu'elle s'était sauvée drôlement en vacances après avoir prédit une victoire des Golden Knights. Et en série mondiale, encore une fois, madame choisit les Dodgers de Los Angeles. Je l'avertis qu'elle ne fait pas un bon choix, mais elle a la tête dure, la Gaudreau, et elle nous quitte en vacances. Et les Red Sox ont quasiment balayé les Dodgers de Los Angeles. Ça s'est terminé hier soir. Une sacrée belle victoire. Et les Red Sox ont balayé tout sur leur passage en série éliminatoire. Tu penses aux Yankees, tu penses aux Astros de Houston, tu penses aux Dodgers de Los Angeles. Écoute, t'es en série, t'affrontes les meilleurs là, de ta catégorie et ils terminent avec un bilan de 11 victoires, 3 défaites, 7-1 sur la route et ils ont marqué plus de 6 points par partie. Y a-tu quelqu'un qui aurait pu arrêter une machine comme celle-là?
Ben écoute, puis en plus, Price fait le travail, David Price, alors que dans les dernières années, c'était pas sa force nécessairement les séries.
C'est en quelque sorte sa rédemption pour lui. Mm-hmm. Ça avait mal commencé, pourtant, alors qu'à son premier départ, il n'avait même pas duré 2 manches au monticule, puis on s'est dit, ça y est, c'est reparti. Mais là, il a aligné 3 victoires d'affilée, David Price. Il a finalement enlevé cette étiquette de perdant dans les grands moments qui pesait sur lui depuis des années. Et je trouve que... Je sais pas si tu as regardé, puis tu étais probablement déjà au lit parce qu'à l'heure que tu te levais ce matin, je regardais les festivités d'après-match.
Ouais.
Et je le voyais, il y avait une espèce, une forme de tristesse dans ses yeux. C'est pas un gars qui démontre beaucoup d'émotions, sauf qu'à la toute fin, lorsque Sarlé a effectué le dernier retrait sur des prises, il est parti comme un boulet de canon avec le sourire aux lèvres. J'ai l'impression qu'il s'attendait à être choisi le joueur le plus utile des séries pour fermer le clapet à tous ses détracteurs, mais on a décidé d'y aller avec Steve Pearce, l'ancien des Blue Jays de Toronto, qui a roulé sa bosse un petit peu partout dans le baseball majeur. Lui qui avait joué pour toutes les équipes de la division où évoluent les Red Sox de Boston en saison régulière. Mais c'est une belle histoire. C'est une histoire quasiment de plombier, même si c'est une équipe qui a une masse salariale de 100 millions de dollars.
Ouais.
C'est les plombiers qui ont conduit les Red Sox de Boston à la victoire. Je pense notamment à Steve Pearce. Et si on lui a donné le titre de MVP, je pense qu'on aurait pu donner au trio des releveurs Kelly, Barnes, Brazier et Evaldi ont conservé une moyenne de points mérités de 1,40 en 25 manches et 2 tiers. Et particulièrement, encore une fois, Joe Kelly, le releveur de 30 ans des Red Sox hier, qui a l'air d'un adolescent avec ses lunettes, qui réussissait à placer des balles rapides toujours de 98 puis 99 000 $ dans la zone des prises. C'était vraiment quelque chose à voir, mais c'est la déroute pour les Dodgers, qui était la première équipe depuis des années à atteindre la série mondiale 2 années d'affilée. C'est pas facile de 30 jusque dans la série ultime. Les Dodgers l'ont réussi, mais encore une fois, ils ont failli à la tâche. Et pour bien illustrer ça, c'était de voir Clayton Kershaw, qui lui, un peu à l'image de David Price dans le passé, va se demander qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour gagner en série de championnat.
Ouais.
Il a accordé 3 circuits hier. C'est lui le corps et le cœur et l'âme des Dodgers de Los Angeles, puis il a été incapable d'indiquer la bonne voie à ses coéquipiers. En tout cas, une belle série de baseball. La saison est terminée et imagine-toi que tard hier soir, les preneurs au livre de Las Vegas ont établi les Red Sox et les Astros de Houston comme co-favoris pour gagner la série mondiale de 2019.
Ah oui, déjà on est là.
Écoute, on ne perd pas de temps à Vegas, on ramasse les paris.
Ben oui, on va leur donner le temps de savourer le champagne au moins un peu avant, nous autres.
Moi, il va y avoir des défilés à Boston, puis on ne prévoit pas une meilleure température que celle qu'on a au Québec présentement, mais au moins, ils auront quelque chose à se mettre sous la dent.
Ce qui ne sera pas le cas de l'Impact de Montréal, d'ailleurs.
Moi, l'Impact qui conclut la saison par une défaite hier, les chances de participer aux séries, tu sais, quand tu comptes autant sur tes adversaires que sur tes propres joueurs pour te tailler un poste, les chances de parvenir à tes fins sont plutôt minimes. Hier, c'est une belle fin de saison qui se termine pour l'Impact, mais l'année, on rate les séries pour une deuxième année d'affilée. Lorsqu'on regarde tout ça, c'est que si on avait commencé comme du monde, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, puis que les joueurs ne le connaissaient pas, puis on avait des nouveaux coachs. Mais ça n'explique pas qu'à chaque début de saison, on traverse une longue période noire. À un moment donné, Joey Saputo est obligé de sortir, puis mettre les points sur les i, puis les i, puis les bases, c'était en disant qu'il manquait peut-être de leadership au sein de l'équipe. On a une bonne petite équipe, mais pour la MLS évolue à un rythme extrêmement rapide. Il y a des joueurs de qualité qui nous arrivent de partout à travers le monde. Puis il va falloir faire du meilleur recrutement au cours de l'été pour parvenir à tenir son bout. Oui, on veut que l'Impact performe parmi les meilleures équipes de la Ligue, mais il faudra que l'effectif soit un peu plus relevé. On compte trop sur Nacho Piatti. C'est presque l'équipe d'un seul homme. On a ajouté de bons joueurs. Puis je pense qu'on a un noyau qui a bien de l'allure. Mm-hmm. Sauf que là, on est rendu dans une grande ligue, puis ça coûte cher, puis il va falloir attirer... on a déjà une vedette. C'est pas nécessairement le fait d'attirer d'autres vedettes, c'est d'attirer des joueurs de qualité. C'est que il n'y avait personne sur le banc qui était de nature à venir ennuyer les joueurs qui sont sur le terrain. Puis la meilleure chose qui peut parvenir au sein d'une équipe, c'est l'effet de compétition. Quand tu sais que tu es susceptible de perdre ton poste à n'importe quelle partie parce qu'il y a un joueur sur le banc qui est prêt à arracher l'asphalte pour bouger,
oui.
Eh bien, à ce moment-là, là, c'est un peu ce qui se passe chez le Canadien actuellement.
Absolument.
Il y a cet effet d'entraînement, compétition à l'interne, tu es obligé de travailler fort, tu ne veux pas perdre ton poste. Chez l'Impact, il y a trop d'écart entre les bons joueurs et les joueurs de soutien. Fait qu'à ce moment-là, c'est là-dessus qu'on doit s'attaquer. Sauf qu'on a connu une belle histoire en fin de saison. L'Impact a gagné des points. On voit que déjà la campagne de renouvellement de billets de saison va bien. On veut se trouver de nouveaux abonnés. Je pense qu'il y a moyen de continuer à croître dans cet univers-là qui change à la vitesse de l'éclair.
Et tu parlais de l'Impact qui commence tranquillement. Est-ce que l'élément stabilité pourrait faire la différence? Parce que, tu sais, je regarde ça, puis honnêtement, je suis pas un connaisseur de soccer, mais baptême, je regarde ça depuis, mettons, 7-8 ans, il y a eu à peu près 20 coachs, là, puis c'est ça. Ouais,
mais là,
je pense qu'avec
Rémi Garde, là, je pense que l'équipe est en bonne main. Il n'y a jamais eu un personnel d'entraîneur aussi compétent que celui-là. Ça a pris 10-12 matchs sur un calendrier, 46 parties avant que Garde puisse mettre les choses à sa main. Ça fait que c'est ça qui explique pourquoi l'Impact n'est pas dans les séries. C'est la raison aussi pour laquelle, avec le noyau qu'on a là, avec un système de jeu qui est bien identifié, en allant chercher, je pense qu'on est à 2-3 joueurs. Je ne t'appelle pas de super vedette, là.
Mm-hmm.
Il faut avoir 2-3 joueurs vraiment de calibre international qui pourraient changer la mise extrêmement rapidement chez l'Impact. Ça ne prend pas grand-chose. Mais je vais te dire, il faut absolument que tu t'améliores parce que les autres équipes, bien, Wayne Rooney est arrivé avec le DC United. On ne peut pas aller chercher un Wayne Rooney comme on est allé chercher Didier Drogba à tous les ans. Là.
Ouais, ouais.
Sauf que lui, il est arrivé là, il a donné exactement le même coup de pied au DC United que Didier Drogba avait donné à l'Impact à ce moment-là. Et les joueurs internationaux, il y a des problèmes partout à travers le monde, puis les joueurs veulent jouer dans des univers qui sont pas mal plus sécuritaires pour eux et pour leur famille. Les gars sont plus ouverts à un jeune âge à traverser l'Atlantique ou suivre la grande caravane qui nous amène de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, malgré M. Trump, pour venir jouer en MLS. Donc ouais. Là, c'est une ligue là, qui gagne en crédibilité. Puis les joueurs sont intéressés maintenant compte tenu de plusieurs facteurs à venir jouer ici. Fait que il faut je pense, recruter les bons éléments. Puis, parce que c'est le fun. Je vais te dire une affaire. C'est le fun, le soccer. C'est le fun de voir jouer l'Impact. On veut que nos équipes locales connaissent du succès. Mais là, il va falloir donner un sérieux coup de barre au niveau du recrutement.
Et on serait dû, parce que Raphaël me partageait des statistiques ce matin concernant Boston. Puis tu sais, tu vas dire que c'est pas la même chose quand même, là, mais... tu regardes la ville de Boston qui a eu plusieurs championnats depuis 2002. Là.
Il y a quand même... City of Champions.
Oui, ouais, absolument. Tu as eu 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 pour les Patriots au Super Bowl. 2004, 2007, 2013, 2018 pour les Red Sox au baseball. 2008, les Celtics dans la NBA. Et 2011, les Bruins au hockey. Donc, sur une période de 16 ans, mettons, les 16 des 18 dernières années, ils ont gagné quelque chose à Boston. Fait que, tu sais, quand tu regardes Montréal, tu fais « Ouais, on est loin. Hein? » Rajoute à ça les Alouettes, puis...
On est loin, puis je me demande quelle place peut prendre la révolution de la Nouvelle-Angleterre dans ce paysage sportif-là,
ouais,
qui est ultra compétitif à Boston, tu sais. On a des équipes gagnantes dans une ville où les universitaires priment. Tu sais, Boston, c'est la ville du savoir, avec le paquet d'universités qu'on retrouve là, Harvard, entre autres, le MIT qui est là, il y a un paquet à Cambridge, il y a un paquet d'universités qui Boston College, Boston University, mais les équipes de sport professionnels sont appuyées et c'est une ville difficile. Les partisans sont sévères, on les comprend. Ils sont habitués à avoir des équipes gagnantes, mm-hmm, et lorsque leurs équipes ne se rendent pas jusqu'à la toute fin, du moins jusqu'en finale, les gens sont déçus, puis il y a de la pression sur les dirigeants. Et je voyais David Dombrowski, l'ancien directeur général des Expos, qui est président des opérations baseball, qui a construit cette équipe-là du côté du Fenway Park. Je dois dire que les gens qui ont eu à travailler dans l'organisation des Expos, lorsque les Expos étaient à leur meilleur, où on devait être créatif, où on devait trouver des jeunes de talent, on en a trouvé sur le terrain, mais on en a trouvé en Moses du côté des bureaux administratifs avec la poussée de Dombrowski, Dan Duquette, tous ces gars-là qui ont connu un succès énorme. Ils sont tous passés par le pipeline que constituaient les Expos de Montréal.
Ah, arrête, tu me fais mal au cœur quand tu dis
mais
ça.
Mais c'est la vérité.
Ah oui, mais quand même. Écoute, on termine avec la Formule 1, un autre titre pour Lewis Hamilton, puis, tu sais, il faut que je te dise que je suis pas capable de l'aimer. C'est un bon pilote, mais je suis pas capable de l'apprécier.
Ben, écoute, là, moi non plus, quoique je suis pas le plus grand fan de F1, mais lorsque tu es sacré champion du monde 5 fois, comme l'ont été Juan Manuel Fangio, et tu es à 2 titres du plus grand pilote de tous les temps, Michael Schumacher, c'est que tu dois être bon. Sauf que oui, j'aimerais ça voir Lewis Hamilton dans une voiture plus ordinaire.
Mm-hmm.
Tu sais, parce que actuellement, est-ce que les pilotes font vraiment la différence dans des autos qui ont 8 longueurs d'avance sur tous leurs rivaux? Tu sais, là...
Ouais.
C'est ça qu'il faut. Il faut essayer de voir. Là. La voiture est tellement. Mercedes est tellement en avant des autres que tu ne peux pas véritablement. C'est le championnat du monde des constructeurs qui m'importe le plus parce que ce sont des voitures, la grosseur, le budget des écuries. Parce qu'un chauffeur de talent dans une voiture comme celle-là va amener sa voiture jusqu'au bout. Mm-hmm. Et Jacques Villeneuve, lorsqu'il avait gagné le championnat du monde de Formule 1, il n'y avait pas la meilleure voiture sur le bitume,
ouais,
mais il avait réussi à battre Ferrari et Schumacher. Il y avait un écart entre les deux, mais c'est le talent du pilote. Maintenant, les jeunes se préparent tous ces jeux vidéo, puis arrivent là-dessus à 18-19 ans, puis... les pilotes, oui, mais je pense que les voitures font une nette différence. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'apprécier autant les succès d'un Lewis Hamilton. Ça a l'air être mécanique, son affaire, tu sais.
Oh, oui, pas, absolument.
Il y a du talent, mais quand est-ce qu'il l'exprime? En tout cas, je suis pas un très grand fan de F1, mais je regarde ça me... On devrait le porter au nu, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Puis je me rappelle d'un des derniers Grands Prix, je ne sais pas si c'est l'avant-dernier ou l'autre avant, mais dans lequel Bottas était en bonne position. À un moment donné, on lui a dit « Laisse passer Hamilton ». Il leur a dit carrément à la radio, puis je me rappelle l'avoir entendu, ouais, c'était ouais, pas ça qui était supposé. Puis il était en tabarouette après le Grand Prix. Là, t'sais. Fait que, encore là, moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Je me rappelle de l'époque de Schumacher avec Eddie Irvine et tous les autres sous-fifres qui l'ont accompagné. Là.
C'était comme la lutte.
Oh, ouais, c'est ça.
C'était comme la lutte, c'est arrangé.
Ah, en tout cas.
Mais c'est bref, des choses qui arrivent.
Voilà, et donc, on se retrouve demain, nous autres, Michel, à 7h40.
OK. Merci. OK, bye-bye.
Bye-bye. Michel Villeneuve, donc, tous les matins vers 7h40.